Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka Strasbourg et RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Cette session du mois de novembre à Strasbourg aura été marquée par l'approbation par le Parlement européen après 3 ans et demi de négociations de la réforme de la politique agricole commune qui entrera en vigueur en janvier 2023. Cette réforme a pour but de rendre la PAC plus verte, plus équitable, plus souple et plus transparente. Mais pour notre émission d'aujourd'hui, et même si ce sujet mériterait d'être analysé et débattu, nous avons souhaité, nous intéresser à une autre politique, peut-être un peu moins connue dans sa dimension européenne, c'est l'éducation. Alors même si chaque pays de l'Union européenne est responsable de ses propres systèmes d'éducation et de formation, la politique européenne dans ces domaines doit faire face à des enjeux communs, tels que les déficits de compétences, le développement technologique ou la crise pandémique que nous vivons aujourd'hui. Pour cette émission spéciale Éducation en Europe, nous avons le plaisir d'accueillir la députée européenne Ilana Sicurel. Bonjour Madame Sicurel.
Bonjour, enchantée d'être avec vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter Madame Sicurel, même si je pense que certains de nos auditeurs vous reconnaissent puisque vous avez animé bon nombre d'émissions diffusées sur notre antenne. Ici au Parlement européen, vous siégez au sein du groupe Renew Europe et vous êtes membre de la commission de la culture et de l'éducation. Vous êtes particulièrement investi dans les questions liées à l'éducation, la formation, la citoyenneté. Et vous avez suivi de près en tant que shadow rapporteur, dans le jargon européen, on appelle ça shadow rapporteur, mais on pourrait dire rapporteur de l'ombre, le texte pour l'élaboration d'un espace européen de l'éducation. En France, vous êtes également active sur ces questions au sein de La République En Marche. Vous êtes membre du bureau de La République En Marche en tant que responsable national en charge de l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. Vous avez réalisé, à la demande du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, du secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune, un rapport pour renforcer la dimension européenne de l'éducation. Vous avez également fondé en 2018 le collectif citoyen Je m'engage pour l'école. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce collectif citoyen ?
Oui, alors ce collectif citoyen, j'y suis très attachée. Je m'engage pour l'école est présent dans 70 territoires, dans l'Hexagone et en Outre-mer. L'éducation est un thème essentiel. Je pense que ce sera un des enjeux centraux de la campagne qui s'annonce. On le sent d'ailleurs et la pandémie a probablement encore accentué cette centralité de l'éducation en France et en Europe. On va en reparler. Mais je suis très attachée à ce dialogue qui s'est instauré dans tous les territoires parce que c'est ma conception de la politique. Moi, je suis venue assez récemment à la politique avec Emmanuel Macron. Je fais partie de ces figures, on va dire, de la société civile qui s'engage. Et je crois beaucoup à cette intelligence, ce sens de l'innovation qui nous vient des territoires. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous les passionnés d'éducation parce que Je m'engage pour l'école. On a beaucoup de professeurs, on a beaucoup de chefs d'établissement, d'AESH, de tous les membres de la communauté éducative sont représentés, mais aussi des parents et des grands-parents d'élèves. Parce que je crois qu'il y a toute la place pour les grands-parents d'élèves dans la communauté éducative.
Et vous avez créé, je crois, un think tank également. Vous faites partie d'un think tank.
Alors, j'ai effectivement cofondé avec Jean-Michel Blanquer un think tank, donc un cercle de réflexion et d'action. Parce que là encore, on veut être dans l'action et dans la réflexion partagée avec les citoyens, qui s'appelle le Laboratoire de la République. Il a été fondé il y a quelques semaines. Et là encore, on va avoir un déploiement départemental. Donc, appel à tous vos auditrices et vos auditeurs qui sont les bienvenus pour travailler avec nous sur ces chantiers. Le pari qu'on fait, c'est que la majorité des Français est une majorité silencieuse, très attachée à la République. Mais comme le disait Charles Péguy, la République, on la vit. Et quand vous commencez à l'expliquer, le combat est déjà perdu. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la République est attaquée à l'extrême droite comme à l'extrême gauche et avec aussi des courants qui sont complaisants à l'égard de tendances clairement anti-républicaines qui peuvent venir de la radicalité islamiste notamment. Et on a ressenti le besoin, en fait, à la fois d'avoir cet espace de débat où on s'arme aussi pour défendre la République. La République, c'est une espèce d'évidence pour beaucoup de Français. Il faut que cette majorité silencieuse se lève pour la défendre et pour la faire comprendre, non pas, parce que souvent on est dans le banc des accusés, on attaque la République se défend. Non, on veut, avec ce think tank, être à l'initiative et redonner à la République toute sa modernité et toute sa force tranquille.
Je me permettrai un petit commentaire. La laïcité, elle est réutilisée par tout le monde, réinterprétée par tout le monde, aussi par des courants d'extrême droite qui utilisent la laïcité aussi pour exclure, puisque finalement, on ne sait plus trop ce qu'est la laïcité, ce que veut dire la laïcité de la loi de 1905.
Alors, c'est vrai qu'on est, sur une terre qui ne connaît pas la séparation de l'Église et de l'État, hein, le concordat bien connu de ce grand territoire. Je pense que la laïcité, en réalité, c'est la seule manière et la manière de créer un espace commun où, contrairement à d'autres modèles, hein, qui ont aussi leur force, hein, mais comme le modèle anglo-saxon, vous avez une juxtaposition des religions, des appartenances. Et donc, la liberté religieuse, elle est conçue comme une possibilité de vivre pleinement sa religion, mais on ne s'intéresse pas, en fait, à l'interaction entre les citoyens. Et je pense que la force de la laïcité, qui, évidemment, et avant tout, réaffirme la liberté religieuse, il ne faut surtout pas penser que la laïcité est anti-religieuse, mais elle est une manière de poser un espace commun, d'insister sur ce que nous avons en commun et à partager pour que précisément on évite ce que Jérôme Fourquet, vous savez, le politologue qui est très inspirant, a appelé l'archipélisation de la France. Ce phénomène d'archipélisation est vraiment, je crois, la grande menace qui pèse sur les grandes démocraties. Et l'antiracisme, par exemple, est une cause éminemment universel. Ce qui est beau dans l'antiracisme, c'est quand on prend parti les uns pour les autres. Quand vous avez des juifs qui se mobilisent pour les noirs, des noirs pour les juifs. Et là, en ce moment, avec tout ce qui se développe dans une espèce de faux antiracisme qui est en réalité un racialisme qui ramène chacun à ce qu'il a de différent, alors que la laïcité rend possible et développe tout ce que nous avons en commun. Non pas pour oublier notre diversité qui fait aussi notre richesse, mais je pense que le temps est vraiment au rappel du combat universaliste de l'antiracisme et de rappeler combien la République, hein, c'est la res publica, c'est la chose commune, c'est donner sa chance à chacun, c'est l'égalité des chances et c'est préserver ces espaces où l'on se respecte. Je finirai par, pardonnez-moi, c'est un thème qui me tient à cœur, mais il y a un très beau texte d'Albert Camus où on lui demande de définir la civilisation européenne. Et sa réponse, c'est le pluralisme. Et le pluralisme, ça n'a de sens que, non pas si vous êtes juxtaposés les uns à côté des autres, que si vous avez un espace partagé. Et le pluralisme, ça s'est construit après des siècles et des siècles, et c'est notre trésor que nous devons absolument préserver et transmettre aux jeunes générations.
Alors revenons sur une de vos activités sous Parlement, qui est aussi de la transmission, c'est l'éducation, la thématique de l'éducation. Madame Sicurel, ça fait bientôt 2 ans que nous sommes confrontés à la pandémie du Covid, qui bouleverse encore nos vies, qui nos libertés, notre quotidien, mais qui a aussi bouleversé nos écoles. Quelles sont pour vous les leçons que nous devons tirer de cette situation pour ce qui est de l'éducation et de l'enseignement ?
Alors, je crois qu'il y avait quelque chose qui était déjà enclenché, c'était la prise de conscience que, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, l'éducation relève de la compétence des États, hein, de la compétence souveraine des États. Chaque État est libre d'avoir un programme qui lui est propre. Et je pense que si on se lançait dans une harmonisation, on perdrait en vérité en richesse. Mais que les enjeux éducatifs sont aussi des enjeux européens. On va en parler tout de suite. Mais on s'est rendu compte que nous avons des défis communs. Et nous devons nous donner les moyens de devenir, et ça c'est une expression d'Emmanuel Macron que j'aime beaucoup et qu'il reprend très régulièrement, c'est faire de l'Europe une puissance éducative. Donc c'était déjà en cours, puisqu'on va en reparler, l'espace européen de l'éducation, c'est pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, la décision par le Conseil, par la Commission et par le Parlement d'avoir une stratégie globale en matière d'éducation et de formation. Donc, c'était déjà enclenché. Mais je dirais, parce que j'aime bien voir les choses, si vous voulez, le verre à moitié plein, ce que nous a apporté la pandémie, c'est une prise de conscience encore plus forte du fait que l'éducation et la formation sont des priorités absolues pour l'Europe. On verra quelle forme ça peut prendre. Et je dirais un deuxième apport, hein, puisque les Chinois disent que dans une crise, il y a à la fois des difficultés, mais aussi toujours une opportunité à saisir. C'est dans le monde enseignant, notamment dans le monde éducatif, de manière plus large, une familiarisation qui s'est faite avec les instruments numériques font que tout ce dont nous avons rêvé depuis des années, et on va en reparler de manière plus précise, les échanges de bonnes pratiques, il y a des formidables innovations pédagogiques en Europe, 27 pays qui chacun ont leur force, et on ne s'est jamais donné les moyens d'échanger de manière sérieuse et efficace ces pratiques pédagogiques pour le bien de nos enfants. Eh bien, il est évident que cette familiarisation va faire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un professeur finlandais qui forme des futurs professeurs français, des Allemands qui sont très forts sur l'apprentissage, qui peuvent partager des expériences avec des formateurs en matière d'apprentissage dans un autre pays européen dans lequel l'apprentissage est moins développé. On voit, si vous voulez, vraiment que cette familiarisation avec le numérique comme instrument éducatif, pour moi, est une véritable révolution et va nous permettre d'accélérer de manière absolument prodigieuse ces échanges de bonnes pratiques.
Si on était un peu moins positif, on voit aussi que, pour certains, on parle aussi d'une catastrophe éducative européenne, parce qu'il y a eu des décrochages, parce qu'il y a aussi des problèmes de connectivité. Tout le monde n'a pas eu accès à l'Internet de la même manière. Est-ce que ce genre de choses est prise en compte déjà au niveau peut-être national par rapport à ce que vous y voyez, mais aussi au niveau européen ?
Alors, tout à fait, et vous avez raison, mais quand on identifie des problèmes, alors excusez-moi d'être toujours optimiste, mais quand on fait de la politique, c'est pour transformer le monde, c'est pas juste pour déplorer, mais votre question est très légitime. On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement cette fracture numérique et qu'un certain nombre d'enfants au sein de l'Union européenne, notamment, n'avaient pas accès à un ordinateur. Et donc, je suis heureuse de vous annoncer, et ça, je l'ai fait à titre personnel comme rapporteur Renew Europe dans le cadre de l'espace européen de l'éducation, j'ai proposé, et mes collègues l'ont accepté, donc c'est aujourd'hui voté au Parlement européen, c'est que dorénavant, nous avons reconnu un droit fondamental à la connectivité, c'est-à-dire qu'on considère que le droit à un matériel, mais aussi à un abonnement abordable et surtout à un réseau de qualité, c'est évidemment très important, est un droit dérivé du droit à l'éducation. Donc nous l'avons inscrit dans l'espace européen de l'éducation, ce droit fondamental à la connectivité sous ces trois aspects. Et ça nous donne, si vous voulez, un fondement textuel pour suivre de près le plan digital, les engagements qui ont été pris par la Commission, justement de s'assurer que tout enfant européen a accès à la connectivité, parce que son droit à l'éducation n'a pas de sens aujourd'hui s'il n'a pas accès à cela. Alors évidemment, vous avez raison, on s'est rendu compte que certains manquaient de cet accès à la connectivité, mais on est là justement pour identifier et appeler des réponses et compter sur moi comme députée européenne pour suivre les choses de près dans le déploiement. Il y a les promesses et puis ensuite ce qui se fait sur le terrain. Et j'ajouterai une chose, vous avez parlé effectivement de la fermeture des écoles. La France a eu, il faut bien le dire, un fonctionnement de son école tout à fait exemplaire, puisqu'on a été l'un des pays qui a le plus laissé ouvertes ses écoles. C'est un vrai courage politique qu'a eu notre ministre, il faut le reconnaître, c'est vraiment à lui qu'on le doit, et évidemment au président Macron. C'est énorme, parce que vous savez, aux États-Unis, la moitié des enfants n'ont pas été à l'école pendant quasiment toute la pandémie. Ce que ça va engendrer comme difficulté pour un certain nombre d'enfants, surtout les plus fragiles, est incommensurable, sera peut-être irrattrapable. Nous avons, en maintenant les écoles ouvertes, en ayant une école à distance qu'il faut encore renforcer, au cas où il y aurait d'autres pandémies, mais aussi en cas de maladie de l'enfant, enfin, pour vraiment se donner tous les moyens qu'il n'y ait jamais d'interruption de l'éducation pour les enfants, est quelque chose qui a été relativement bien fait en France. Il ne s'agit pas de faire cocorico, mais c'est vrai qu'on peut quand même se dire qu'au niveau des décrochages, on a rattrapé notre... On considère qu'il n'y a pas eu d'aggravation du décrochage et qu'on a même pu avoir les enfants en zone d'éducation prioritaire qui, comme vous le savez, bénéficient du dédoublement, qui est il y a 12 au lieu de 24.
Pour les petites classes, oui.
On a un bénéfice. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'abord effacé l'effet négatif de la pandémie et maintenant, on est même dans une amélioration des apprentissages. Donc, voilà, on fait un bilan plutôt positif. Et c'est vrai que nous, on est très inquiets au niveau européen et au niveau mondial du retard qui a été pris par beaucoup de pays. L'UNESCO a parlé d'une catastrophe éducative. Donc, on a bien conscience de ça. Il faut se donner tous les moyens pour justement que l'éducation soit une priorité et pour rattraper ce retard, parce qu'aucun enfant ne doit souffrir à long terme de cette situation.
Comme les soignants, il a fallu vivre une pandémie mondiale pour que soit mise en valeur le métier d'enseignant, parce que c'est quand même eux qui ont fait cette continuité éducative. Donc, comme pour les soignants, on constate des disparités salariales importantes entre les différents pays de l'Union européenne. La France, malgré des réformes récentes qui ont permis d'augmenter légèrement les salaires, rémunère nettement moins ses professeurs que ses voisins allemands, belges ou espagnols. Comment vous expliquez-vous cette situation que les salaires en début de carrière peuvent paraître très faibles après 5 années d'études aujourd'hui, puisqu'il faut un master pour être enseignant?
Bah, vous savez, vous dites légèrement, mais en fait, c'est assez considérable ce qui a été fait et on va rattraper notre retard. On sera tout à fait dans les normes européennes. Et on a notamment rattrapé le retard en début de carrière. Donc, c'est chose faite et c'est assez considérable. Maintenant, vous savez, il y a 800 000 profs. Donc, quand on fait un effort, il faut pouvoir suivre. Je pense que cette question du professeur m'est très chère et je pense que ça doit être l'une des questions, je dirais, centrale de notre réflexion politique. Lors de cette élaboration de l'espace européen d'éducation, il y a eu beaucoup de travaux de documentation. Et cette question de la perte d'attractivité du métier d'enseignant est malheureusement un phénomène européen, qui pour moi est la chose la plus grave qui soit. Parce que nous pouvons faire toutes les réformes que nous voulons, si nous n'avons pas des professeurs qualifiés, motivés, heureux quelque part, pour porter l'éducation de nos enfants, notre civilisation disparaîtra. Je vais être un peu grave, mais je le crois profondément. D'ailleurs, j'ai animé il y a peu de temps un événement européen justement sur le statut du professeur et la nécessité de sa valorisation au niveau européen. Il y a des dimensions, et vous avez tout à fait raison de le souligner, d'ordre financier et qui commence à se résoudre en France avec un budget qui n'a jamais été aussi élevé pour l'éducation. On peut aller plus loin. Quand on écoute les professeurs, on se rend compte que ce n'est pas toujours ça qui ressort. Dans la presse, on parle toujours des salaires. Et c'est une question que je ne veux pas éluder. Je ne cherche pas à échapper à cette question parce que je pense que c'est la valorisation du métier de professeur dans nos sociétés. Donc ça passe par le salaire parce qu'aujourd'hui, la valorisation d'un métier, c'est aussi les conditions de travail. C'est aussi la confiance qu'on fait au professeur en lui laissant plus de liberté dans sa manière de pouvoir expérimenter avec ses élèves. C'est plus de formation. Et ça a commencé parce qu'il y a eu quelque chose dont on a peu parlé, c'est le Grenelle de l'éducation. C'est un phénomène. Moi, j'y ai participé. On a rassemblé toute la communauté éducative et autour de la table, il n'y avait pas seulement des professeurs, il y avait aussi des chefs d'entreprise, il y avait aussi des parents d'élèves, il y avait aussi tous les gens concernés par l'école. Parce que l'école, c'est un chantier qu'on doit porter ensemble. Et il y a eu un diagnostic qui a été fait et je pense qu'on a enclenché quelque chose d'important. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Le professeur doit redevenir en fait l'une des fonctions les plus respectées dans nos démocraties, dans nos sociétés. Ce qu'a montré la pandémie, c'est que, comme dans tout groupe humain, vous avez besoin d'avoir une fidélité à une équipe. Vous savez, un directeur d'école, chez nous, le patron d'un professeur, c'est un peu le ministre rue de Grenelle. Cette centralisation, et le ministre est le premier à en avoir conscience, et je pense que le président de la République en a aussi fortement conscience, je pense qu'il faut qu'on aille vers plus d'autonomie et de confiance, une gestion différente des carrières. Un professeur qui entre dans cette profession, il ne sait pas où il va être nommé, ça n'est plus possible. Donc c'est déjà fait parce qu'il y a une plus grande proximité dans la gestion des carrières, ces choses dont on parle, les choses qui marchent mieux, on en parle un peu moins dans la presse. Mais c'est déjà le cas. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et je crois qu'il faut considérer que le professeur, c'est le meilleur expert de l'éducation. Moi, je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de formation, de recherche participative qui implique les professeurs. C'est-à-dire une demande qu'on fait dans l'espace européen d'éducation, c'est d'avoir un vrai budget de recherche sur la pédagogie, ce qui aujourd'hui n'existe pas, ce qui peut sembler étrange, et que les professeurs soient vraiment partie prenante. C'est une urgence, on doit repenser le métier de professeur, on doit lui redonner toute son autorité, sa centralité dans notre société. Pour moi, c'est un sujet absolument majeur.
Et j'ai l'habitude de demander à notre invité de faire un choix musical, et vous êtes porté sur quelque chose qui m'a un peu surpris au départ, puisque vous vouliez entendre une chorale d'enfants qui chantait l'hymne européen. Pourquoi ce choix ?
Alors, écoutez, je pense que dans notre Europe, on a besoin de mettre du sentiment, on a besoin d'avoir une culture commune, on a besoin de vibrer. Moi, cet hymne européen, j'aime beaucoup la Marseillaise, mais cet hymne européen, elle m'émeut tout autant. Et je vais vous faire une confidence, il y a peu de temps, j'étais, parce que je suis une députée de terrain qui rencontre beaucoup, notamment des lycéens professionnels et des apprentis, parce que je veux qu'ils profitent pleinement de la mobilité et que la mobilité Erasmus ne soit pas réservée à des cursus académiques plus classiques. Donc c'est l'un de mes combats. Je vous le dis, ces jeunes rentrent absolument transformés d'un séjour en mobilité et donc c'est un combat important. Eh bien, récemment, j'étais dans une école qui se spécialise dans l'hôtellerie. Et ils avaient préparé l'hymne européen Ils étaient tout émus parce qu'ils disaient « on n'a pas l'habitude de chanter ». J'en ai eu vraiment les larmes aux yeux et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Là, on va entendre des enfants. Je pense qu'il faut que l'hymne européen, en français, dans toutes les langues de l'Europe, soit quelque chose de partagé. Vous devez connaître peut-être Kol Oulam, qui est un formidable chef d'orchestre qui fait chanter tout Israël. D'ailleurs, récemment, il a été au Brésil. Il fait chanter toute la société ensemble pour faire peuple, pour être européen, il faut que nous ayons des chants communs. Et celui qui existe pour l'instant et qui est magnifique et qui a été écrit par Beethoven, c'est l'hymne à la joie.
Le problème de cet hymne, c'est qu'il est normalement sans parole au niveau européen. On l'écoute. C'est vraiment des enfants qui chantent, c'est un travail scolaire, on entend l'enseignant derrière. Donc c'est vrai que c'est assez émouvant et c'est vrai qu'on peut s'approprier cet hymne qui est l'hymne de tous les Européens, en plus de nos hymnes nationaux.
Et vous savez que le titre de mon rapport, du rapport gouvernemental que j'ai remis au Premier ministre et à Jean-Michel Blanquer et à Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, il s'appelle « Faire de l'école le cœur battant de l'Europe ». Donc merci d'avoir passé ce passage qui est vraiment dans son jus. Hein, on sent que c'est une chorale, une des multiples chorales de France qui chante ce bel hymne avec un professeur voilà, qui bat la mesure. C'est très émouvant et puis ça dit l'essentiel, c'est-à-dire que quand même le trésor de l'Europe, c'est quand même de préserver la paix. Et quand j'entends ces enfants chanter ça, je pense qu'il faut qu'on le développe. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, comme on a eu un problème avec nos langues multiples, on a décidé que c'était purement musical, vous avez raison de le rappeler, mais moi je pense qu'il faut donner du sens, il faut donner du sens de l'émotion et que, bien sûr, la musique, mais il est important aussi de mettre des mots sur cette musique.
Alors on va parler un peu de ce rapport, parce que là vous allez essayer de donner une dimension européenne à l'éducation, mais cette fois-ci, vous ne parlez pas vraiment dans votre rapport, vous ne développez pas vraiment la question des enfants, mais vous êtes plus sur la formation et sur les professeurs et on va dire sur l'encadrement autour, donner cette dimension européenne, mais pour les enseignants. Déjà, quel constat avez-vous fait avant de bâtir ce rapport? Sur quoi vous êtes parti?
Alors, le challenge, le défi, c'était à l'approche de la présidence française de l'Union européenne de trouver des leviers, hein, des actions qui sont efficaces, démultiplicatrices dans leur effet. Et en fait, on n'a pas oublié les enfants, puisqu'on s'engage à ce qu'il y ait 100% d'établissements scolaires qui est un partenaire européen. Aujourd'hui, on est à 48%. Demain, on veut être à 100% fin 2022. Donc, vous voyez, il y a de l'audace. Mais un partenariat, et c'est ce que je vous disais en début d'émission, ça peut aussi se traduire sous forme numérique. Il y a des instruments formidables comme eTwinning, qui sont vraiment des instruments à disposition des professeurs, qui leur permettent clé en main d'avoir un échange avec des collègues européens, de jumeler des classes. Et ce n'est pas assez utilisé par les professeurs. Donc, notre pari, c'est de dire, OK, 100% des établissements français qui ont quelque chose d'européen, même si c'est par le biais, pour commencer, simplement d'un échange numérique, c'est déjà énorme pour les jeunes français, surtout dans les zones rurales, dans les zones d'éducation prioritaire, mais sur l'ensemble du territoire français. Mais vous avez raison que l'un des aspects auxquels je tiens beaucoup dans ce rapport, c'est de viser les professeurs et plus particulièrement les futurs professeurs. Mais quand vous touchez un professeur, c'est l'effet démultiplicateur. Si vous faites du professeur un professeur profondément européen, demain, c'est toutes ces classes qui vont être profondément européennes. Donc, on a vraiment, et le ministre partageait cette analyse, décidé de mettre toute notre volonté politique effectivement sur les futurs professeurs et les professeurs en exercice. Alors de quoi s'agit-il exactement concrètement ?
C'est ce que j'allais vous demander.
On se rend compte que quand vous parlez d'Europe et d'éducation, dans l'esprit des gens, c'est l'éducation à l'Europe qui est importante. Les institutions, les valeurs européennes, l'histoire de l'Europe, très important. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais là, on est en train de bâtir quelque chose de différent. Pour moi, l'Europe, D'une manière générale, on convainc les citoyens de son importance quand elle apporte un plus. C'est le principe de subsidiarité. Les citoyens français, aujourd'hui, ils sont inquiets, ils ne sont pas dans le romantisme. Si ça leur apporte quelque chose, si ça apporte quelque chose à leurs enfants, ils sont partants. Alors, moi, ce que je mets sur la table, c'est que l'Europe et la France peuvent devenir des puissances éducatives, c'est-à-dire enfin se saisir du génie pédagogique qui se développe dans les 27 systèmes et se donner les moyens de s'enrichir de toutes ces techniques. Quel dommage ! Vous avez la Suède et le Danemark qui sont très bons dans l'enseignement des langues étrangères. Vous avez l'Allemagne qui est tout à fait pionnière et très en avance sur l'apprentissage. Vous avez l'Irlande qui a développé un enseignement numérique tout à fait intéressant. Vous avez la Finlande qui développe depuis déjà plus de 10 ans la notion de compétences psychosociales, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle, le savoir qu'on transmet à l'école, ce n'est pas seulement un savoir théorique, c'est aussi la communication, l'empathie, l'esprit d'équipe. On s'est rendu compte pendant la pandémie combien tout ça était important et l'école doit aussi transmettre ça. Eh bien, la Finlande, elle a développé toutes sortes de techniques pour le développer. Donc, c'est un trésor à portée de main que jusqu'à présent, on n'a pas su saisir. Alors, la bonne nouvelle, parce que ce rapport n'arrive pas de nulle part, ce n'est pas juste un rêve d'Ilana Sicurel, c'est que, un, doublement d'Erasmus, quasi-doublement d'Erasmus, deuxièmement, un Erasmus, un programme beaucoup plus souple qui fait que on peut financer beaucoup plus de choses sous des formes diverses et surtout la création, les gens ne connaissent pas encore ça, mais pour moi c'est une vraie révolution, des académies européennes de professeurs. C'est-à-dire que on a des enfants autour de nous ou on a des enfants nous-mêmes, on a envie qu'ils aient accès à la meilleure éducation possible. On a compris que les 27 pays ont développé des innovations pédagogiques formidables et qu'on n'a jamais été capable de s'en saisir. Eh bien, ces académies européennes des professeurs, ce sont des réseaux de pratiques pédagogiques autour de la question du harcèlement, autour de la question de l'inclusion des enfants à besoins pédagogiques particuliers, autour du numérique. La commission va mettre 1,5 million d'euros par académie pour un projet de 3 ans où il va y avoir un échange extraordinaire de ces pratiques autour d'une thématique et ça va évidemment irriguer toute l'Europe. Alors, revenons au rapport. Moi, ce que je propose, c'est que dans le parcours des futurs professeurs, il y a toujours, je l'ai identifié, mais ça existe chez quasiment tous nos homologues européens, il y a souvent un stage où vous êtes en observation, le plus souvent dans votre pays, pour voir comment marche une école. Alors, très concrètement, en master 1, en première année de master, vous avez un stage de 6 semaines. Eh bien, j'ai proposé, et le ministre l'a accepté, qu'il y aura 2 semaines qui se passeront en immersion dans un pays européen. En Finlande, en Allemagne, en Pologne. Et il y aura parallèlement le module Europe, c'est-à-dire une initiation à la fois aux différents systèmes éducatifs et à leur richesse, aux instruments comme e-twinning numérique qui permettent de faire profiter les classes de ces échanges pédagogiques et d'une manière générale, une culture éducative commune à tous les professeurs d'Europe. Donc ça a été décidé pour la France, ça va déjà être mis en place de manière pilote et vous allez avoir, c'est pas un petit nombre, c'est 52 000 professeurs, donc 26 000 parce qu'ils sont 52 000 sur les 2 ans. Donc vous avez 26 000 futurs professeurs qui, à terme, puisqu'on vise toute une cohorte, qui auront une expérience européenne et qui auront cette formation et cette ouverture à l'Europe. Et ce sur quoi je suis en train de travailler, et ce sera un des thèmes portés dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, c'est de faire en sorte que ce qu'est en train de faire la France de manière pionnière, c'est-à-dire d'instaurer une brique européenne dans la formation de tous les professeurs français, ce qui me semble pour moi une évidence. On se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Eh bien, ce soit quelque chose qui soit adopté par tous les États membres. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il ne soit pas possible aujourd'hui d'être professeur en Europe, où que ce soit, sans avoir cette culture d'ouverture à l'Europe, cette connaissance des différents systèmes, cette connaissance des moyens financiers, technologiques qui permettent de partager. Et je pense qu'on va y arriver parce que j'ai des échanges, j'ai eu un échange récent avec la ministre finlandaise. Tout le monde est très enthousiaste et on a les moyens avec ces académies européennes des professeurs. Donc, moi, je pense que l'Europe de l'éducation est en train de devenir une réalité. Il faut de la volonté politique, il faut de la ténacité. Mais vous avez des futurs professeurs qui vont entrer dans l'exercice de leur profession avec cette richesse, cette ouverture. Et vous savez bien qu'un professeur, un bon professeur, c'est celui qui questionne sa pratique.
Ben merci Madame Sicurel pour votre participation à l'émission. Je pense que vous nous avez donné beaucoup d'éclairage sur la dimension européenne de l'éducation. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt.